ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on parle des lettres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyées au roi de son époque. Et ça, ça montre quelque chose de très important, que l'islam se considère comme une religion universelle. Une religion qui s'adresse au monde entier. Depuis le début, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Shams kouwirat, et c'est parmi les premières sourates qui ont été révélées, Allah parle de l'alamin, tu es une miséricorde pour le monde. L'alamin, إن هو إلا ذكر للعالمين. العالمين c'est ce qu'il y a sur les humains et les djinns. Le Coran s'adresse aux humains et aux djinns. العالمين, tous les humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien intégré cela. L'islam c'est pas la religion des Arabes. L'islam c'est pas la religion d'une région. L'islam c'est une religion qui s'adresse à l'homme, à l'être humain d'une manière générale, à toute l'humanité. C'est pour ça que dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la paix avec Quraysh, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il envoie des lettres signées de la part de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tous les rois de son époque. Aslim, taslim, yu'tika Allahu ajraka marratayn. Deviens musulman, tu seras en paix et Allah te donnera ta récompense double, parce que ta récompense que tu auras pour toi en tant que personne et pour avoir amené ton peuple à l'islam. Alhamdulillah, ça a très bien marché avec certains et pas avec d'autres. Par exemple, on a dit Al-Muqawqis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre en Égypte. En Égypte. L'Égypte, c'était très très loin de Médine. Donc, le roi n'est pas devenu musulman. Mais il a accueilli la lettre avec honneur. Et il a aussi envoyé des cadeaux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on lui a envoyé des habits, lui a envoyé même deux servantes Hein? Marie qui est devenue après, par la suite, sa femme, et la mère de son enfant, Ibrahim, et une autre fervente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Hassan ibn Thabit, c'était le poète connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Sirin. Maintenant, on va parler d'un autre livre, d'une autre lettre. On a dit que le prophète choisissait les bonnes personnes pour les bonnes personnes physiquement et oralement pour qu'ils soient les bons représentants de l'islam. Il a envoyé à Kisra. Kisra, c'est le roi des Perses. Le roi des Perses, c'est carrément en Iran, en Irak aujourd'hui. Très très loin aussi. Le prophète lui envoie une lettre. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah. Il a Kisra Azim al-Fars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était respectueux dans sa lettre. Il dit Min, de la part de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, parce qu'il se définit comme le messager d'Allah. Il est à Kisra Azim al-Fars. Il lui donne sa place. Azim, c'est-à-dire le grand, l'Azim, l'immense. Azim al-Fars. Ça, c'est un respect. Même si cet homme-là ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend en considération la diplomatie. Ce roi, il s'appelle Azim al-Fars, le prophète lui donne son nom. D'accord ? On ne va pas dire pourquoi le prophète il dit Azim, il va donner un rang. Mais parce que c'est important de garder tout ça et d'avoir le bon langage, d'avoir la bonne diplomatie. Ce n'est pas parce que c'est un kafir ou c'est un qu'on ne doit pas s'adresser à lui avec respect. Il causait les règles. Il dit il a Kisra Azim al-Fars. Pourtant, ce Kisra-là, là, c'était un homme pervers, c'était un homme. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne Salamun ala man ittaba al-huda. Que la paix soit sur ceux qui suivent la guidance. Wa amana billahi wa rasuli. Il croit en Dieu et son prophète, son messager. Wa shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qu'il atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, sans aucun associé. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuli. Wa ad'uka bi di'ayati Allah. Et je t'appelle pour le message d'Allah. فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة. Regardez, إلى الناس كافة. Je suis le messager d'Allah pour les hommes et les humains كافة. كافة, c'est quelque chose qui va englober toute l'humanité. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم. فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. Il dit, tu porteras ton propre péché et tu porteras le péché de ton peuple pour les avoir empêchés d'accéder au message qu'Allah a envoyé à toute l'humanité. Donc il a envoyé Abdullah ibn Hudhayfa al-Sahmi. Fadafa'ahu, le Sahmi, il ne pouvait pas aller jusqu'à l'Irak ou l'Iran. Et il est parti voir Malik al-Bahrain. Parce que Kisra avait placé, parce que son royaume était très très grand, il avait placé des petits rois, des émirs, dans des régions. Et la région la plus proche de Médine, c'était le Bahreïn. Il lui a envoyé donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a envoyé un messager qui est parti à l'émir de Bahreïn pour lui donner la lettre et que lui doit l'envoyer à Kisra. C'est ça les règles de l'époque. Donc, qu'est-ce que a fait Malik al-Bahrain? Là, il y a un doute sur l'histoire. Est-ce que Malik al-Bahrain a autorisé à Abdullah ibn Hudhayfa lui-même, le compagnon, d'amener la lettre, ou est-ce qu'il a envoyé lui-même la lettre? Donc, quand Kisra a eu le livre et la lettre dans sa main, il dit aux interprètes de lui interpréter, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrit en arabe. Ce n'est pas lui qui écrit, mais ses compagnons, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire ni écrire. Il lit Min Muhammadir Rasulillah, de la part de Muhammad Rasulullah. Là, il s'énerve. Comment cet homme-là, bédouin du fin fond de l'Arabie, met son nom avant le mien? Alors, regardez l'orgueil, l'arrogance. D'habitude, les gens, quand ils lui envoient des lettres, ils commencent directement par son nom à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, de qui? cette lettre vers qui? D'accord? Mais Muhammadin il est. Et là, ça le... il dit comment ça se fait que cet homme prononce son nom devant le mien. Et il prend la lettre, il la déchire en mille morceaux. D'accord? Il la jette devant le compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit à son émir qui est au Bahreïn? Il dit, envoie-lui deux hommes parmi les hommes les plus forts de ton armée et ramène-le jusqu'à moi. Je veux le voir, cet homme-là qui se prétend prophète et qui s'adresse à moi de cette manière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit ces deux hommes forts pour le ramener avec eux. Ils croyaient que c'était juste, ils ont trouvé une armée complète, des musulmans, des gens qui donnent leur vie pour Allah, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit à l'aise, et pas pour la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pour que le prophète soit à l'aise, ils peuvent donner leur vie. Donc ils disent inna shahin shah. Shahin Shah, c'est une parole perse, il dit Malikul Muluk, le roi des rois. Le roi des rois. Shahin Shah. Qad Katab, il a dit, il t'appelle et il nous demande de t'amener avec nous. Hein, comme ça, tu vas te présenter devant lui parce que tu ne l'as pas respecté correctement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit quand le prophète a reçu le message que Kisra a déchiré, le prophète a déchiré son livre, il a dit Mazzaqallahu mulkahu, qu'Allah déchire son royaume. Qu'Allah déchire son royaume. Et les deux hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit attendez demain, je vous donne une lettre. Subhanallah, quand à ce moment-là, quand les hommes étaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une insurrection contre Kisra. À ce moment-là, il y a une insurrection contre Kisra. Ils l'ont renversé. Et il a été tué. Au moment où il a adressé, où les hommes étaient là. Donc, ici son fils, qui s'appelle Shiroui, ben Kisra, qui a tué son père pour avoir la royauté pour lui. Et ça, c'était le mardi, 10 jours de Jumadi, l'oula, l'année 7 de l'Hijra. D'accord? Le mardi, 10 Jumadi, l'oula. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ça s'est passé et que le fils a tué son père, l'ange Gabriel est descendu du ciel pour l'informer. Il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux hommes étaient là, ils ne savaient rien, personne ne savait rien. Il n'y avait pas les SMS et le... Donc pour avoir une information, il faut un mois. Pour que cette information arrive jusqu'à midi, il faut un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses hommes, leur donne l'information, il leur dit, le fils a tué son père, votre roi est mort. Personne ne lui donne cette information, subhanallah. Il leur dit, votre roi est mort. Et vous allez revenir et vous allez trouver son royaume complètement déchiré. Comme il a déchiré mon livre, son royaume sera déchiré. C'est pour ça qu'il les a gardés. C'est pour cette information. Subhanallah. Ils lui ont dit, Atadri ma taqoul, tu es conscient de ce que tu es en train de dire, hein? C'est du n'importe quoi. Kisra, on m'a laissé le roi des rois, domine le monde. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Kisra, c'est comme... Si on dit le Kisra, Rome, Faris, c'est les deux grandes puissances de l'époque. Alors que les musulmans étaient vraiment faibles. Donc, Kisra, c'était. Il avait le Yémen, il avait sous son royaume, le Bahreïn, l'Irak, l'Iran actuel, tout ça c'était à lui. C'est une grande puissance. Son armée, c'est une armée. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les garde pour leur dire la tête de l'imam d'Apoul, tu es en train de te conscient. Donc, il dit non. Je suis conscient de vous dire, de ce que je vous dis. Allez voir l'émir qui vous a envoyé, l'émir de Bahreïn. Et dites-lui, s'il devient musulman, donc je lui laisserai son royaume et son pouvoir. à condition de devenir musulman et qu'il laisse les gens embrasser l'islam librement. S'il devient musulman, il garde son... Le prophète sallallahu alayhi wa n'est pas venu pour dominer ou pour renverser. Non, il est venu pour que les gens embrassent l'islam. Il lui a dit, si tu embrasses l'islam, ben tu restes l'émir de cette... Et donc... فخرج من هني حتى قدم على بذان. Donc ils arrivent à Badan. Badan c'est l'émir. Et quand ils arrivent à Badan, ils lui donnent le livre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit Kisra est mort, tué par son fils, et toi, si tu deviens musulman, tu peux garder. Il a dit, mais c'est quoi ça? Deux heures après, il reçoit la lettre qui vient de l'Irak, de l'Iran, avec l'information qui confirme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Alors que les hommes sont partis de Midi, ils apportent l'information. Donc là, il sait que c'est un prophète. Personne ne peut avoir cette information. Donc il est... Et subhanallah, il est devenu musulman. Cet émir est devenu musulman. Et cette région est devenue musulmane sans aucune guerre. Alhamdulillah. Badan. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit à Qaïsa. Vous voyez que les gens n'avaient pas la même réaction. Là l'émir est devenu musulman. Kisra, par contre, n'est pas devenu musulman. L'Iran, à cette époque-là, même l'Irak, n'est pas encore musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie à Qaïsa, Malik al-Rum. Qaïsa al-Malik al-Rum, il vient de gagner une grande guerre contre les Perses. Parce qu'il y avait deux grandes puissances, les Romains et les Perses. Et la guerre, c'était pratiquement chaque 10 ans, chaque 20 ans, il y a une guerre entre les deux. Il y a, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, les Perses ont fait la guerre contre les Romains, ils ont gagné, ils ont écrasé les Romains. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate pour commenter cet événement-là. Quelle sourate? Ar-Rum, la sourate des Romains. Et comment elle commence cette sourate? Alif Lam Mim. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. Donc quelques années. Allah dit dans cette sourate a été révélée à la Mecque. Donc il y a des années. غلبت. Les Romains ont perdu la bataille في أدنى الأرض. أدنى الأرض c'est la terre la plus basse. Et c'est où? C'est la Jordanie. C'est à cet endroit qu'il y a eu la guerre entre les Perses et les Romains. Il dit ils ont été vaincus. Et ils vont gagner une autre bataille qui va avoir lieu dans quelques années. Et ce jour-là, les croyants seront ravis, joyeux de la victoire qu'Allah leur a donnée. Pourquoi? Parce que les musulmans se sentent plus proches des Romains que des Perses. Pourquoi?
Chrétiens.
Les Perses, c'est les Romains, c'est des chrétiens. C'est malgré tout, malgré leurs erreurs, leur trinité, mais c'est quand même croire en Dieu. Hein? Avec tout ce mélange-là, mais malgré tout, ils sont plus proches que ceux qui adorent le feu, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose d'important à garder. C'est-à-dire que les gens ne sont pas tous pareils. T'as des gens qui sont complètement ennemis, qui, aujourd'hui, par exemple, pour nous, musulmans, on ne peut pas dire les koufars sont tous pareils. Non. Allah nous dit dans le Coran al-Karim, Laysou sawa'a. Ils ne sont pas tous pareils. Parmi les koufars, parmi ceux qui ne croient pas en Dieu, t'as des gens justes, qui défendent les causes justes. Tu vois, on en a. Il y a des gens qui sont justes, qui défendent les causes justes. Ceux-là sont proches de nous, parce qu'ils défendent la justice. D'accord? Mais t'as des gens qui sont injustes, qui sont tyranniques, qui veulent imposer leur loi et leur dogme dans ce monde. Ils veulent dominer. Ben c'est une injustice. Et donc, on peut travailler avec certaines personnes sur des sujets sur lesquels on est en commun. Et l'islam n'aime pas l'injustice. Et donc c'est pour ça qu'il faut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, Pourquoi les musulmans seront joyeux? Pourquoi les musulmans seront heureux? Quand les Romains gagnent contre les... Parce qu'ils sont plus proches de nous. Vous voyez un peu le... Yafrah. Certains savants disent que aussi, parce que cette année-là, c'est l'année où les musulmans ont gagné la bataille de Khaïba. Khaïba, la septième année. Et c'est parce que Allah a dit, et ce jour-là, les musulmans seront heureux parce qu'ils auront gagné la bataille de Khaïba. Fatih Makkah, ce n'est pas encore. C'est la huitième année. Donc, quand les Romains ont gagné cette grande bataille contre les Perses, hein, c'est la... ils ont été vaincus il y a 9 ans et ils ont gagné cette bataille 9 ans après. Et là, on est à la 7e année de l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abu Bakr radiallahu anhu, quand la sourate les Romains a été révélée, il a lu la sourate. Les Mécois sont venus voir Abu Bakr. Elle lui a dit, t'as vu, les Perses ont gagné la guerre, la bataille contre les Romains. Ils se sont moqués de Abu Bakr, c'est-à-dire, vous, les chrétiens qui sont un peu comme vous, qui adorent votre Dieu, ben, ils ont perdu. Donc, Abu Bakr était triste. Et quand Allah a révélé cette sourate, il est venu réciter cette sourate, vous allez voir, dans trois ans, il y aura une guerre entre les Perses et les Romains, et les Perses vont gagner. Il y a quelqu'un qui lui a dit, on va faire un pari, si ça arrive, dans trois ans, on va faire un pari, il veut dire, on va faire un pari, je te donne tant, si j'ai raison. Ça c'était pas haram à l'époque, hein, c'était pas le... Alors que maintenant c'est haram, on ne peut pas faire ça avec de l'argent, c'est haram. Les paris sont haram. Donc Abu Bakr Siddiq, il fait un pari. Il dit trois ans. Et quand il revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Abu Bakr dit, ya Rasulallah, j'ai fait un pari. Parce que j'ai lu la sourate et j'ai fait un pari avec un tel pour... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mais qui t'a dit trois ans? Il dit, mais j'ai lu. Bid'a sini, bid'a. Bid'a dans la langue arabe, c'est quoi? C'est entre 3 et 9. Et le prophète lui dit, non, ce n'est pas 3 ans. Reviens, refais ton pari, mais dis 9 ans. Il revient, il refait son pari, il dit 9 ans. Et subhanallah, 9 ans après, une autre bataille arrive. Et vous voyez, Abu Bakr était tellement convaincu par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il était prêt à parier par des chameaux pour avoir cette... Donc, maintenant, la bataille a eu lieu. La bataille entre les Romains et les Perses. Et les Romains ont écrasé les Perses. Parce que je vous ai dit déjà, les Perses étaient en faiblesse. D'accord? En période de faiblesse. Leur roi est tué. Il a été remplacé par son fils, tué par son fils. Enfin, ça montre un peu l'état de l'état. Donc, ils les ont complètement écrasés. Et le roi, Héraclius, revient victorieux, et il va jusqu'à Jérusalem pour prier là-bas, pour remercier Allah, Dieu, hein, pour cette grande victoire. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoie la lettre. Donc il était en Jérusalem, il a fait des prières, et il revient à Damas, en Syrie, pour fêter la grande victoire. Et quand il arrive, c'est là où il reçoit la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a amené cette lettre? Dihyatul Kalbi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette lettre à Dihya al-Kalbi. Dihya ibn Khalif al-Kalbi. Et je vous ai dit que ce Dihya-là, physiquement, c'était l'homme le plus beau de Médine. Le plus parfait physiquement de Médine. Au point que Jibril alayhi salam, quand il descend sur terre, il prend quelle forme? La forme de Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu arda. C'était un homme, physiquement et aussi moralement, c'était un homme parfait radiyallahu anhu arda. Et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des hommes parfaits. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie cette lettre. Cette lettre, c'est Min Muhammadin Rasul, Abdullahi wa Rasul. Et si cette lettre qui existe aujourd'hui, si cette lettre qu'on a aujourd'hui, physiquement, cette lettre, elle existe aujourd'hui. Min Muhammadin Rasulillah, min Muhammadin Abdillah wa Rasulih, ila Hiraql, Azim al-Rum, comme tout à l'heure, le respect, Azim al-Rum, Salamun ala man ittaba' al-huda, Aslim taslam, Aslim yu'tika Allah ajraka marratayn, فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. Les gens de l'époque. Et après le verset, يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Venez à une parole commune entre nous et vous, c'est d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu. D'accord? Nous, on atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, mais faites-le aussi. Le prophète l'a appelé à l'islam. Donc, Rawal Bukhari, Al-Bukhari, radiallahu anhu, rapporte, d'après Ibn Abbas, d'après Abu Sufyan, radiallahu anhu. Donc, Abu Sufyan, Hiraql, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a reçu la lettre, il a demandé la traduction de la lettre. Et Hiraql était un savant chrétien. Il savait que c'était le moment de l'arrivée d'un prophète. Et lui, il le sait très très bien. Ça, c'était quelque chose pour lui de connu. Maintenant, il ne savait pas est-ce que cet homme-là qui prétend être prophète, c'est lui ou pas lui. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il arrive en Syrie, il dit « Cherchez-moi des commerçants qui viennent de la même région, de la Mecque, de cette ville-là qui s'appelle la Mecque. Cherchez-moi des commerçants. » Il a envoyé ses soldats. Et les soldats sont partis chercher, est-ce que vous connaissez des Mécois, des... Ils sont tombés sur qui? Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'est l'ennemi numéro un du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a fait la guerre pendant Uhud, vous vous souvenez d'eux. Et donc c'est l'ennemi numéro un. Il lui a dit... T'as d'autres personnes avec toi, des Mécois? Il a dit oui, un tel, voilà, on est tous des commerçants Mécois. Le roi vous demande. Il les embarque tous. Il était une dizaine. Allez, le roi demande un témoignage. Et le roi, Hiraql, il dit, il place son tourjouman, le traducteur juste à côté. Il a dit, tu traduis tout ce que dit cet homme-là.
Ces hommes. Qu'est-ce qu'il fait, Hiraql? Il dit, ils étaient une dizaine d'hommes. Qui est parmi vous le plus proche de lui dans la lignée, dans la famille? Abu Sufyan, il regarde les autres, il sait que c'est lui. Il dit, moi. Moi, je suis le plus proche de lui. C'est-à-dire que la famille de Abu Sufyan et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient un lien de sang. C'était pas proche, c'était pas son oncle ni son. Mais quand on remonte au troisième ou quatrième grand-père, on trouve un lien. Il m'a dit, c'est moi. Il m'a dit, approche, avance-toi. Tu avances vers moi, tu te mets ici. Il dit à tous les autres, mettez-vous derrière lui. Regardez la stratégie. Il y a un homme. Il leur dit, je vais lui poser des questions. Et il va répondre. Si jamais il ne répond pas juste ou il ment, faites-moi signe. Il ne vous regardera pas, il ne vous voit pas. Hein. Mais moi, je vous vois et je sais qu'il ment sur ce point-là. Parce qu'il prend ses précautions pour s'assurer que l'information qu'il a, c'est une vraie information. D'accord? Donc, il leur dit, et après, maintenant, Abu Sufyan est devant, Hiraql est là, le traducteur et les autres commerçants sont derrière. Abu Sufyan ne peut pas mentir. Hein, parce que les gens sont derrière lui, et s'il ment, ils vont peut-être lui le dire, donc il est obligé de dire la vérité. Parce que c'était l'ennemi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu mentir. Il l'a dit par la suite. Hein. Il a dit, si j'avais pas les gens derrière moi, j'aurais menti. Mais malheureusement, il avait une stratégie impeccable. قال ادنوا مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. Il dit au tourjouman, au traducteur, je vais lui poser une question. Dis au commerçant derrière lui, s'il ment, dites-le moi, il ne vous verra pas.
فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه.
Abou Soufiane dit Wallahi, par Allah, si c'est pas la pudeur que les gens derrière moi, et je ne sais pas ce qu'ils vont dire, ils sont derrière, disent des choses de moi, dit ah, j'aurais menti pour salir l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son ennemi. Mais malheureusement, il a dit que la vérité. Regardez les questions que Héraclès va poser. Et ça, ça nous montre sa sagesse. Il dit كيف نسبه فيكم, la lignée, sa lignée entre vous. Quel est le statut social de cet homme dans la ville? فقلتو هو فينا ذو نسب. C'est un homme qui a un bon statut social, d'une famille connue, grande famille. D'accord, très bien. فقال هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ Est-ce que quelqu'un parmi vous a prétendu avant lui la prophétie à la Mecque? Abou Sufyan dit non, jamais. On ne connaît pas ce genre de choses. Nous, on est des adorateurs des statues depuis 10 siècles et on ne connaît pas cette personne n'a prétendu être prophète avant lui. Regardez la précision des questions. Abou Hirqal dit demande-lui. Est-ce que parmi ses parents, il y avait un roi? Dans les aïeux, dans les grands-parents du prophète, est-ce qu'il y avait un roi? Il dit non, 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 il n'y avait pas de roi. Nous, on n'a pas de roi. En Arabie, à la Mecque, il n'y avait pas de roi. D'accord? Non, il n'y a pas de roi. Il lui dit, pose-lui la question, أَشْرَافُ الْقَوْمِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ. Est-ce qu'il est suivi plutôt par les gens faibles ou par les gens riches et forts, dominants, les grands, ou est-ce que c'est les faibles, les gens pauvres qui le suivent généralement? Il va dire non, plutôt les faibles, plutôt les gens faibles, les gens opprimés. C'est eux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Gardez bien ces questions en tête, hein, parce qu'on aura des réponses par la suite. قال أيزيدون أم ينقصون. Est-ce que leur nombre augmente ou est-ce qu'il diminue? Ah, il dit à Abou Sufyan, ah, il aurait pu mentir ici, mais il avait des gens derrière lui. Il y en a plutôt et ça monte. Ça a toujours monté. Toujours, ça monte. C'est de plus en plus. D'accord. قال يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. Est-ce que l'un de ces gens-là quitte cette religion en étant en colère contre le prophète ou contre cette religion? Est-ce que les gens, quand ils ont embrassé cette religion, il y a certains qui la quittent par la suite, ou est-ce qu'ils restent? Jamais quelqu'un a embrassé cette religion, il l'a quittée. Ils sont prêts à mourir pour garder leur religion. C'est une information très importante. C'est-à-dire que celui qui devient musulman, il le devient par conviction, il ne redevient jamais mécréant. Ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce que lui a dit, avant de dire ce qu'il vient de dire, avant de prétendre être messager, est-ce que avant, vous avez relevé des mensonges dans ses paroles, avec les gens? Est-ce que c'était un menteur avant? Connu par un mensonge, deux mensonges, trois mensonges. C'était un menteur avéré. Est-ce que vous le connaissez comme un menteur? Elle lui a dit non, jamais. Jamais il a menti. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde le reconnaît. Ça, c'est... Jamais il a menti dans sa vie. C'est un homme. On l'appelle même As-Sadiqul Amin. On l'appelle le véridique, le digne de confiance. Jamais il a menti. Non. Abou Sufyan, il n'a pas dit comme je viens de le dire. Il a dit non, tout simplement. Il n'a pas menti. Mais je vous explique. Il dit non, il n'a pas menti. On le traitait pas de menteur avant. Non, non, c'était pas un menteur. Il n'a pas rajouté. Il aurait pu dire que c'était la Sadr al-Amin, mais ça va dans le sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit que non, la. Qala. Fahal yakhdir. Est-ce qu'il trahit sa parole? Est-ce qu'il trahit sa parole? Il a dit à Abou Sufyan, la, mais. Ah, le non mais. Le mais, il a dit, Abu Sufyan parce que c'était la période de... On est en quelle période là? De la trêve de Hudaybiyah, n'est-ce pas? Non, on est pendant cette période qui a duré 2 ans. Elle était signée pour 10 ans, mais elle a duré que 2 ans. Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a dit à Hiratan? Il lui a dit non, il n'a jamais trahi sa parole, mais là en ce moment, on est en pacte avec lui et on ne sait pas, peut-être il va trahir.
Voyez un peu le.
Il a dit peut-être il va trahir. C'est peut-être c'est toi qui vas trahir. C'est, on va voir que c'est Abu Sufyan qui va trahir par la suite. Subhanallah. Il dit non, mais nahnu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. On ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait pas ce qu'il va faire. Voilà ce qu'il a dit. Et Abu Sufyan dit par la suite, parce qu'Abu Sufyan, là il le rapporte, c'est lui-même qui rapporte ce hadith. Par la suite, il est devenu musulman, ce Abu Sufyan, qui était l'ennemi numéro 1 du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, il est devenu musulman, et là, en tant que musulman, il nous rapporte cette histoire. Vous voyez un peu le... Et lui, il dit de lui-même, il dit, et si j'avais la possibilité, je n'avais aucune autre possibilité pour un peu piquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que celle-ci. Je n'avais aucune autre. Là, j'ai exprimé un peu, peut-être il va trahir. Il n'a pas trahi. Il lui a dit, il n'a pas trahi. Donc, regardez l'autre question. Est-ce que vous avez fait la guerre contre lui? Il a dit oui, on a fait la guerre contre lui. Il a dit alors, quel était le résultat de cette. Il nous a vaincu une fois. C'était de quelle bataille? Badr. Et on l'a vaincu une fois. C'est Uhud. Il nous a vaincu une fois. On l'a vaincu une fois. Et là, on est en train de parler. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ Donc là, il y a eu une guerre, il a gagné, on a gagné, il a perdu une fois, on a perdu une fois. Donc, il a dit maintenant, regardez, il lui pose des questions concernant qu'est-ce qu'il vous demande, qu'est-ce qu'il vous ordonne de faire. Et là, vous vous souvenez, était juste. Il a dit قلت اعبد الله وحده. Il nous demande d'adorer Allah l'unique. ولا تشركوا به شيئا. De n'adorer rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. واتركوا ما يقول آباءكم. Délaissez ce que vos parents disent. L'adorer des statues d'accord. ويأمرنا بالصلاة. Il nous ordonne la prière. والصدق. La vérité, la véracité. والعفاف. La chasteté. والصلة. Les liens de parenté. قال الترجمان. Donc là, Hiraql, donc regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonne. Il s'était des choses. Le Hiraql, il dit à l'interprète. Maintenant, Hiraql, il veut expliquer à Abu Sufyan et à tout le monde sa vision des choses. Comment il voit ce prophète. Il lui a dit, سألتك عن نسبه. J'étais demandé, je t'ai posé la question sur sa lignée et sa famille. Et tu m'as dit qu'il avait un bon statut social, une famille honorable, une famille connue. Très bien. Ainsi, les messagers, tous les messagers qu'Allah a envoyés faisaient partie des gens des familles connues. Des familles connues et connues par leur honneur. D'accord ? Tous les messagers, c'était comme ça. Depuis Moussa, Isa, alayhi salam, Nour, tous les messagers, c'est comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas l'exception. Donc c'est un premier point. Un premier point. C'est comme, on a un QCM, et on est en train de corriger un peu l'examen. Donc, وَكَذَلِكَ رُسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ مِنْ قَوْمِهَا. Tous les prophètes, quand Allah les envoie, il les envoie pour que les gens croient en lui. Facilement, il l'envoie d'une famille connue. C'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs qu'on connaît pas. Non, quelqu'un parmi nous. Min anfusikum. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadha al-qawl qabla. Je t'ai demandé est-ce que quelqu'un avant lui avait prétendu cette prophétie avant lui. Et tu as dit non. Donc moi je pense que s'il y avait quelqu'un avant lui qui avait demandé ça, j'aurais dit que c'est quelqu'un qui a eu une, qui a vu quelqu'un avant lui et qui veut répéter la même chose. Des gens qui ont prétendu être messagers, ben lui il répète ce que certains ont fait avec, avant lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne avant lui n'a prétendu la prophétie. C'était le premier des Arabes, le premier à la Mecque. Après lui, hein, qui ont prétendu la prophétie, hein, des menteurs. Mais avant lui, personne n'a prétendu la prophétie. Très bien. Donc, il explique, il dit, s'il y avait quelqu'un avant lui qui l'avait prétendu, j'aurais dit que c'est un homme qui veut suivre, qui veut imiter quelqu'un avant lui. Très bien. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ أَبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا. Je t'ai demandé, est-ce que parmi ses parents il y avait un roi, et tu as dit non. Je me suis dit, si parmi ses parents il y avait un roi, j'aurais dit que c'est un homme qui cherche à récupérer le royaume de ses ancêtres. D'accord, hein? Comme aujourd'hui, les royalistes qui veulent le retour du roi, je me suis, c'est quelqu'un qui cherche à récupérer ce que sa famille a perdu. Tu m'as dit non. Donc, hein, c'est étonnant. Donc, c'est pas quelqu'un qui cherche. قلت وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب. Je vous ai demandé est-ce que vous le traitez de menteur avant, et tu as dit non. فقد أعرف أنه لم يكن ليكذب ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. Et ça c'est magnifique. Il a dit je t'ai demandé est-ce que c'était un menteur, il a déjà menti avant, c'était connu par le mensonge, et tu as dit non. Et je me suis dit, si cet homme-là a délaissé de mentir aux gens, au sujet des gens, comment peut-il mentir au sujet d'Allah ? Vous voyez un peu le raisonnement ? C'est un homme qui ne ment pas au sujet des gens. Sa parole, elle est véridique sur le plan humain. Comment peut-il mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala ? C'est impossible. C'est raison de plus. Si c'était un menteur pour les humains, peut-être il va aller à une autre étape, c'est mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, même sur les humains, il ne ment pas. Comment il peut mentir au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous voyez un peu le raisonnement, c'est très fort. قال فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. Je savais que c'est un homme qui délaisse le mensonge sur les hommes ne peut pas mentir au sujet d'Allah. Je t'ai demandé est-ce que c'est les plus faibles ou les plus forts et les plus riches qui le suivent, et tu m'as dit que c'est plutôt les plus faibles. Et c'est ainsi pour tous les prophètes avant lui. Pour Isa alayhi salam, c'est les faibles. Pour Moussa alayhi salam, c'est les faibles. Pour Nuh alayhi salam, c'est les faibles. Tous les prophètes ont été suivis dans un premier temps par les faibles. Et quand ils vont gagner et qu'ils vont avoir la victoire, les autres vont suivre. Et c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses de cette manière. Wa hum atba'u rusul. Wa sa'altuka ayaziduna am yanqusuna. Je t'ai posé la question, est-ce que leur nombre augmente ou diminue? Et tu m'as dit que leur nombre augmente. Donc, il dit au kadalika amru al-iman hatta yatim. Il dit c'est ainsi, la foi augmente toujours jusqu'à arriver à son achèvement, à sa complétude. La foi augmente toujours. Le nombre de croyants augmente toujours. Wa sa'altuka ayartaddu minhum ahad. Je t'ai posé la question, est-ce que quelqu'un, quand il devient musulman, quelques jours ou quelques semaines après, il quitte cette religion et revient? Et tu m'as dit non, que les gens, quand ils adhèrent à cette religion, ils adhèrent pour la vie. Il dit, ainsi, la douceur de la foi, quand elle touche les cœurs, ne peut jamais sortir. Quand quelqu'un devient musulman sincèrement et avec conviction, ben, il ne peut pas sortir de l'islam. Il trouve son apaisement, les réponses à ses questions existentielles. Il trouve la quiétude dans la religion, dans l'islam. Comment tu peux quitter cette religion pour aller pas choisir une autre où tu as 1000 questions sans réponse, alors que l'islam te donne des réponses à toutes tes questions. Donc,
وكذلك الإيمان ainsi la foi quand elle touche les cœurs elle ne sortira jamais des cœurs وسألتك هل يغدر je t'ai demandé est-ce qu'il trahit sa parole et tu m'as dit que non وكذلك الرسل لا تغدر les messagers ne sont jamais ils ne trahissent jamais leur parole et ça s'il y a quelque chose qui désigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est ça c'est le respect de la parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam si on étudie toute sa vie et on veut sortir une grande qualité il a toutes les qualités humaines mais s'il y a une qui sort vraiment c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme de parole c'était un homme de parole sallallahu alayhi wa sallam il dit وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ les messagers ne trahissent jamais leur parole وسألتك بماذا يأمر؟ Je t'ai posé la question. Qu'est-ce qu'il vous ordonne? Tu m'as dit qu'il vous ordonne d'adorer Allah, de ne rien lui associer. Il vous interdit d'adorer les statues. Il vous ordonne de prier, de donner l'aumône, d'être chaste. Il dit, c'est la tarrahim, le lien de parenté. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّ Écoutez bien la conclusion. Là, il va donner sa conclusion. Il dit, si ce que tu dis est vrai, tout ce que tu m'as dit, c'est la vérité, فَوَاللَّهِ فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ Il était à Damas. Il a dit, cet homme-là va posséder l'endroit où je suis assis maintenant. Hein? L'endroit où je mets mes deux pieds, ça, cet endroit-là, ça serait... Cet homme-là, va être le propriétaire, va être dominant sur à cet endroit-là. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجُ Comme tout à l'heure, je vous ai dit, il dit, je savais qu'il allait venir en ce moment, que c'était l'époque du prophète. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ Je n'ai jamais pensé qu'il soit l'un de vous. Hein? C'était les Arabes, c'était des gens qui s'entretuaient, qui étaient là. Hein? C'était la décadence. Ils adoraient les statues, ils tuaient les filles. Hein. Leur vie, c'est les guerres tout le temps. Donc les Arabes, malgré qu'ils avaient une très belle langue, malgré certaines qualités humaines, mais d'une manière générale, c'était le peuple le plus...
Hein.
Exactement, c'est comme aujourd'hui. On n'est pas très très loin. Mais... Allah subhanahu wa ta'ala a voulu changer tout ça. Et donc, il a dit, j'aurais jamais pensé qu'il soit parmi vous. J'aurais jamais pensé que ce soit quelqu'un de vous. D'accord ? فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْرُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَارِ Si j'ai la possibilité de le voir, je ferai tous les efforts pour le rencontrer. Vous imaginez, hein ? Et là, il parle comme ça. Je ferai tous les efforts pour le rencontrer. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ Vous imaginez ? Et si je suis devant lui, je lui laverai les pieds. Ça c'est un hadith authentique rapporté dans le Bukhari. D'accord ? Et c'est Abu Sufyan qui le rapporte, un compagnon. Il dit, et si je suis devant lui, je lui laverai les pieds. C'est quoi laver les pieds chez les chrétiens ? C'est le respect. C'est-à-dire que... Chez les chrétiens, quand ils disent laver les pieds, ça montre le grand respect qu'on a pour une personne. Donc, ثُمَّ دَعَى بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ Donc là, c'est que le traducteur. Là, il demande, donnez-moi le livre, donnez-moi la lettre. Il commence à la déchiffrer lui-même. Alors que c'est pas un arabophone, mais il commence à lire lui-même pour dire, cette lettre, elle vient de cet homme-là. Il voulait un peu... s'imprégner de cette فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غِرَاءَةِ الْكُتُبِ اِرْتَفَعَةِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَا وَكَثُرَ النَّغَمُ Donc quand il a fini de lire, maintenant il était entouré par les prêtres, les évêques, tout le monde était là, parce que c'était un événement. Donc tout le monde, et quand il a dit toutes ces paroles, ces bonnes paroles, et les gens ont écouté, ça commence à crier, à dire oh, qu'est-ce qui se passe, il lui donne hein, c'est quoi ce prophète qui prétend à la prophétie, des gens qui commencent à parler. Donc quand ça a commencé à vraiment à se chamailler presque, il dit
on nous a demandé de sortir. Abou Sufyan qui rapporte cette histoire, on nous a demandé de sortir. Qultu, Abou Sufyan, il a dit à ses compagnons, laqad amara amran, laqad amara amran ibn Abi Kabshah, innahu la yakhafuhu maliku bani al-asfar, fama ziltu muqinan bi amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu sayara. Donc là, Abou Sufyan, il dit à ses compagnons, et Mohammed, on croyait que c'était juste quelqu'un qui n'a aucune valeur. Même le roi des Romains le craint, il dit ces paroles de lui. Ben, je suis étonné. Il dit, et depuis cette date-là, je savais que le prophète allait gagner. Je le savais, ça y est, il a, d'accord. Il dit, Ibn Abi Kabshah, vous savez, Ibn Abi Kabshah. Abou Sufyan, pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui lançait des... Il l'appelait Ibn Abi Kabshah, alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le fils de Abdullah, Muhammad ibn Abdullah, d'accord. Mais pourquoi il dit Ibn Abi Kabshah? Vous savez qui est Abou Kabshah? C'est le mari de Halima Sa'diya. Halima Sa'diya, c'est qui? C'est la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son mari s'appelle Abou Kabshah. Et au lieu de dire Muhammad ibn Abdullah, attribué à son père, lui il dit, en se moquant de lui, tu es le fils de Abi Kabshah. D'accord? C'était une moquerie. Allah n'aime pas qu'on se moque des noms et des prénoms des gens. Quand quelqu'un a un prénom, on l'appelle par son prénom. Le professeur Hassan détestait qu'on l'appelait comme ça, mais c'était les koufars qui l'appelaient de cette manière. D'accord? Donc il dit, je suis certain que... Qu'est-ce qui se passe par la suite, vous savez? Qu'est-ce qu'ils disent les historiens? Ils ont dit que Héraclès, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Héraclès était convaincu à 100% qu'il s'agit de dernier messager et qu'il faut le suivre. Quand il a vu que les gens n'ont pas accepté, n'ont pas aimé ce qu'il a dit, les belles paroles qu'il a dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je fais une autre stratégie. Il les a tous réunis, tous les prêtres et tous les évêques, il les a réunis dans une grande salle. Il a demandé qu'on ferme toutes les portes, que personne ne peut sortir. Il se met debout devant tous. Il leur dit, vous savez que cet homme-là, c'est le prophète, qui est écrit dans nos livres. Il est décrit de la même manière. J'ai posé toutes les questions et je suis certain que c'est le prophète. Pourquoi ne pas le suivre? Lui, il était convaincu. Il disait, les historiens disaient que lui, il voulait vraiment devenir musulman et que son peuple devienne musulman. Mais son point faible, c'était... Kursi. C'était le royaume. Lui, il voulait à la fois garder son royaume et devenir musulman et que tout le monde devienne musulman. C'est ce qu'il voulait. Sincèrement. C'est pas pour eux. Et donc, il réunit tout le monde. Et il leur dit ça. Quand il a dit ça, il leur dit, je suis convaincu que c'est le prophète et je vous demande, et je vous conseille, et pourquoi ne pas le suivre? Et là, il a eu une réaction à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Un refus catégorique. Qu'est-ce que tu es en train de dire? On va quitter la religion de il appelle à l'unité, à l'unicité de Dieu. Et nous, on croit en la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu veux qu'on quitte notre religion, qu'on quitte le dogme de la Trinité pour n'adorer qu'un seul Dieu? Tu es en train de... Et donc, il a compris que c'était impossible de les convaincre. Il a trouvé une stratégie. Il leur a dit... Exactement. Il leur a dit, ah, écoutez, les gens sont... Il a dit, maintenant, je suis confiant et je suis rassuré. Je voulais juste vous tester. Je voulais juste tester votre foi. Est-ce que vous êtes des gens fermes et des chrétiens, des fervents chrétiens qui n'écouteront jamais leur religion? Ou est-ce que, si jamais quelqu'un vous appelle, vous êtes prêt à sacrifier votre religion, je suis rassuré, vous pouvez partir. Vous voyez un peu le... Mais c'était un...
Et pourquoi lui n'est pas devenu musulman? Il aurait pu le faire parce que Najashi est devenu musulman, n'est-ce pas? Le Négus, le prophète lui a envoyé une lettre aussi, il est devenu musulman. Et pourquoi lui n'a pas voulu devenir musulman? Les savants disent, subhanallah, Allah guide qui il veut. Lui, c'est le pouvoir. Il a sacrifié sa foi, sa conviction. Il sait que c'est un prophète, mais il ne l'a pas suivi. Il dit, si je suis devant lui, je lui laverai les pieds. Je sais que c'est le prophète. Mais subhanallah, Allah guide qui il veut. Quand le pouvoir te tient et qu'il t'empêche même d'embrasser et d'aller vers la vérité, ben il est mort comme ça. Allahu a'lam s'il est peut-être devenu musulman dans son cœur, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné cela. Donc voilà ce que Abu Sufyan a vu devant Qaïsa, devant Héraclius, le roi des Romains. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Qaïsa, qu'est-ce qu'il a fait quand le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière, il lui a donné des habits, il lui a donné de l'argent pour, comme honneur au messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc derrière, malheureusement, sur le chemin, il a été... il n'a pas été tué, mais on lui a enlevé tout ce que le roi lui avait donné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé par la suite une brigade à la tribu qui a coupé le chemin de Dihya, ils l'ont volé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une brigade pour à la tête de 500 hommes, Zayd ibn Haritha, et ils se sont vengés de cette tribu. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم بين وقبيلة جودان cette tribu une trêve. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé une lettre. Voyez comment Héraclius a réagi. Le prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé une lettre à Al-Mundir ibn Sawad. Al-Mundir ibn Sawad, c'était le roi de Al-Bahreïn. C'était un émir de Bahreïn. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai dit Kisra, en réalité, il a envoyé les deux hommes, c'était du Yémen, parce que le Yémen et le Bahreïn étaient sous la protection de Kisra. Tout à l'heure, je vous ai dit, le Bahreïn, c'était le Yémen, le roi du Yémen, qui est devenu musulman. C'est pour ça que le Yémen fait partie des pays qui sont devenus musulmans le plus tôt. Et donc, et là c'est Al-Bahreïn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie une lettre à Al-Mundir ibn Sawad. Il l'appelle à l'islam. Le prophète a envoyé Al-Ala ibn al-Hadrami avec cette lettre. Al-Mundir, qu'est-ce qu'il a écrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Amma ba'd ya Rasulallah, fa inni qara'tu kitabaka ala ahli al-Bahreïn, fa minhum man ahabba al-Islam wa a'jabahu, wa dakhala fihi, wa minhum man karihahu. وبأرضي مجوس ويهود فأحدث لي في ذلك أمرك. Donc lui il est devenu musulman. Il a proposé l'islam à son peuple. Certains ont accepté l'islam, sont devenus musulmans et d'autres non. Il écrit une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire voilà ce qui s'est passé. Dans mon peuple il y a des juifs et des perses, des gens qui adorent le feu et aussi il y a des juifs. Qu'est-ce que je dois faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit salamun alayk. فإني أحمد الله إليه الذي لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc il lui a donné des conseils. Il lui a dit donc فاترك للمسلمين ما أسلم عليه. Tu laisses les musulmans sur leur foi. وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم وإنك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك. وَمَنْ قَامَ عَلَى يَهُودِيَتِهِ أَوْ مَجُوسِيَتِهِ فَعَلَيْهِ الْجِزْيَا. Et celui qui reste juif ou majous, c'est-à-dire adore le feu, il n'y a aucun problème, il paye l'impôt légal
Comme les musulmans payent le zakat, lui aussi, puisque c'est pas un musulman, il ne paye pas la zakat, il doit payer la jizya. Et donc, ce peuple de Bahreïn est devenu musulman majoritairement. Et on va parler de l'Oman aussi qui sont devenus musulmans majoritairement, juste avec la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت